Mesdames et messieurs, merci d'être présents. Bonsoir. Merci d'avoir bravé la pluie. Nous accueillons ce soir Hervé Guéquière, dont le livre sur sa détention en Afghanistan donc est paru il y a quelques semaines, donc 547 jours. Allusion évidemment à la longue détention que lui, son camarade Stéphane Taponnier, donc journaliste à France 3, et leur interprète afghan Reza ont vécu pendant donc un an et demi. Je rappelle qu'ils ont été enlevés le 29 décembre 2009 sur une route qui était une route probablement qui aurait dû être bien sécurisée par les forces de l'OTAN et les forces françaises. Bon, il s'est avéré que cette route était plutôt dangereuse. Hervé Guéquière va s'en expliquer. Il a été donc capturé par un groupe taliban, détenu pendant un an et demi dans divers lieux d'Afghanistan. Des lieux relativement proches les uns des autres, d'après l'auteur lui-même, qui fait étalage dans son livre de son sens de l'orientation et qui nous a et qui donc est à peu près certain de n'avoir pas beaucoup bougé d'un périmètre assez restreint dans les montagnes afghanes, pas très loin de l'endroit où les forces françaises donc étaient chargées de faire donc régner la paix et lutter contre l'influence talibane. Ils ont été libérés le 29 juin 2011, donc un an et demi plus tard, dans des circonstances que Hervé Guéquière pourra nous rappeler. Ils sont rentrés aussitôt en France, où ils ont été accueillis. Vous avez sans doute, certains d'entre vous en tout cas, assisté à la télévision, donc et bien sûr lu dans la presse ou écouté à la radio, donc les comptes rendus de cette libération, affaire évidemment nationale et internationale, compte tenu bien sûr de l'importance du conflit afghan, compte tenu de la longueur de cette détention, et aussi compte tenu peut-être des circonstances qui l'ont entouré, puisque c'était à la fois une question d'otage, mais c'était aussi une question politique, c'était une question militaire, et une question qui a beaucoup agité le monde politique, le monde médiatique, et puis l'opinion tout entière, qui a été tenue en haleine donc pendant plus d'un an, à partir du moment où l'identité d'Hervé Guéquière et de Stéphane Taponnier a été révélée, au bout de quelques mois. Voilà, donc Hervé Guéquière, 547 jours, donc une durée évidemment extrêmement longue, sur laquelle vous revenez longuement vous-même avec force détail, donc vous allez pouvoir nous le dire. Ce livre, je suppose que vous aviez besoin de l'écrire pour plusieurs raisons. Quelle raison mettriez-vous en avant? Est-ce que c'était une façon d'évacuer la douleur ou la souffrance de ces jours? Est-ce que c'était une façon de tourner la page pour retrouver votre métier de journaliste le plus vite possible? Est-ce que c'était une façon aussi de témoigner auprès du public de la situation en Afghanistan?
Plusieurs choses. Bonsoir d'abord et merci beaucoup d'être venu. Plusieurs choses. D'abord, finalement, sur la détention proprement dite, j'arrivais pas franchement à parler. Bon, je parlais toujours à peu près des mêmes choses. C'était plus ou moins anecdotique. Ça allait parfois un peu plus loin que l'anecdote, mais voilà. Je me suis rendu compte que, aussi bien au niveau des médias au début, quand on m'a interviewé, avec ma famille, avec mes proches, soit j'arrivais pas en parler clairement ou soit je voulais pas aller trop loin parce que je sais pas si c'est une pudeur ou quoi que ce soit, et finalement c'était beaucoup plus simple de l'écrire. Donc voilà. Moi j'ai vécu longuement avec des gens qui ont réellement fait la guerre, ce qui est pas mon cas. Moi j'ai juste été observateur captif. Mon père par exemple, qui avait fait la guerre 40, qui avait été prisonnier de guerre pendant 5 ans dans le sud de l'Autriche, d'autres personnes qui ont fait la guerre d'Algérie, qui n'ont pas eu l'occasion d'écrire, de mettre des mots concrètement, et ils ressassent toujours les mêmes choses 30, 40, 50 ans plus tard. C'est incroyable. Et donc moi je me suis dit, d'abord je vais pas me condamner à ça, ensuite je vais essayer de raconter l'histoire. Il y avait ça, c'était pour la détention proprement dite. Il y avait le fait aussi que, bon, je suis curieux de nature, ça tombe bien, je suis payé pour ça. Je voulais savoir, d'abord, cette polémique nous est vraiment tombée dessus le 30 30 juin. On a été libéré le 29 juin et on a été de retour en France le 30 juin. Et le 30 juin, ça nous est tombé vraiment dessus.
Alors, polémique dont je rappelle, pardon, qu'elle est liée à votre imprudence supposée. Lorsque vous avez été capturé, certains ont prétendu que vous étiez jeté dans la gueule du loup. Hein.
Enfin, certains, au plus haut niveau de l'État quand même. Hein. C'est pas deux, trois personnes. Imprudence coupable, dixit Claude Guéant, à l'époque secrétaire général de l'Élysée, sur Europe 1 le 17 janvier 2010, donc deux semaines après notre enlèvement, et qui se faisait tout simplement, et sans le cacher d'ailleurs, hein, le relais du président de la République lui-même. Donc j'ai voulu comprendre, parce que je me suis dit quand même, c'est unique. D'abord, j'étais en colère. Ça s'est vu le 30 juin, mais au-delà de la colère n'explique rien. Donc je me suis dit, mais comment ça se fait qu'au plus haut niveau de l'État, des gens ont été intoxiqués? C'est pas moi qui le dis, c'est l'expression de Bernard Kouchner, d'ailleurs, je le dis là-dedans. Et ben voilà, c'est parti d'un rapport d'un officier de presse. Justement, nos rapports s'est étendu au fur et à mesure du tournage, parce que les rapports avec l'armée française, et je pourrais en parler beaucoup plus volontiers après, et j'ai encore de nouveaux éléments par rapport au livre qui a été écrit maintenant il y a quelques mois, qui fait que les relations entre la presse française, pas moi nécessairement d'ailleurs en ce moment, et l'armée est toujours très compliquée en ce moment. Et en ce moment, nous sommes en train de déménager d'Afghanistan. Et en ce moment, il n'y a rien en termes médiatiques. Parce que toutes les demandes de tournage pour la télé, de reportage pour la presse écrite, la radio, les agences de presse, tout ça est bloqué. Et en tout cas, en Capissa, c'est-à-dire l'épicentre de la zone où on est, il n'y a aucune couverture médiatique. Je dis bien aucune. J'ai voulu comprendre et j'ai compris que un certain nombre de mensonges, au mieux des informations tronquées, au pire des mensonges éhontés, ont été dits sur notre compte. Très concrètement, nous ne voulions jamais aller voir les talibans, nous n'avions aucun rendez-vous avec eux, et ni aller les rencontrer, même sans rendez-vous. Nous voulions juste rencontrer des civils afghans, parce que vous savez, bon, on était en Afghanistan, certes, pour suivre l'armée française. L'armée française, à l'époque, c'était 4000 hommes sur place. Et encore même pas 4000 hommes, 3500 en Afghanistan et 500 au Tadjikistan et dans l'océan Indien, au large du Pakistan, sur des bâtiments de la marine nationale. Donc, un mois pour 3500 hommes, ça méritait bien un jour pour 30 millions d'Afghans, quand même. Déjà, ça me semblait extrêmement déséquilibré. On a toujours l'impression, quand on voit les reportages « embedded », comme on dit, c'est-à-dire embarqués avec l'armée française, avec l'armée britannique, avec l'armée américaine, on a toujours l'impression d'être un peu sur la Lune, c'est-à-dire qu'on est avec des Français, mais on ne sait pas si on est en Irak, si on est en Côte d'Ivoire. Et à la limite, je n'ai pas envie de dire, ça a l'air de poser un problème à personne. Mais moi, ça m'en pose un, parce que si on est en Afghanistan, ce n'est pas la même problématique qu'en Irak, ce n'est pas la même problématique en Libye qu'en Côte d'Ivoire ou Côte d'Ivoire, s'il faut citer des endroits où nous sommes intervenus, sauf l'Irak où nous ne sommes pas intervenus d'ailleurs. Donc c'était à mon avis important d'y aller, c'est toujours important d'y aller, et la grande différence, si vous voulez, c'est que quelques jours avant, Stéphane filmait, et c'est vrai qu'on savait que c'était dangereux, il n'y avait pas besoin d'une grande théorie des militaires pour savoir que c'était dangereux, tout simplement parce qu'à chaque fois qu'on sortait de la base, on se faisait allumer, on se faisait tirer dessus, à coups de kalachnikov, à coups de roquettes. Et c'est vrai que Stéphane, qui par exemple était sur la tourelle derrière un tireur, et nous avons d'ailleurs diffusé ces images en novembre dernier, parce que j'ai voulu aussi, avant de faire ce livre, qu'il y ait une émission à la télévision. On était parti pour Pièce à conviction France 3. C'était quand même pas mal qu'il y ait un reportage au bout du compte, même avec un peu de retard. Et ce reportage a été diffusé fin novembre dernier, pendant 1h10, sur France 3. Voilà. Et on voit Stéphane filmer. Et si c'était pris une balle en pleine tête ou en pleine figure, là, c'était pas l'irresponsable, le fou qui aurait voulu aller voir les talibans ou les civils afghans. Ce serait devenu un héros national.
Ce n'est pas tout à fait anecdotique, puisqu'une consoeur de TF1, d'ailleurs, a été blessée lors d'un reportage embedded.
Oui.
Et que d'ailleurs, ça a provoqué les restrictions dont vous venez de parler.
C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là... C'était un bon prétexte, on va dire. C'est-à-dire Patricia Lémonière, grand reporter à TF1, a été la toute dernière, selon mes informations, à avoir été en Capissa, et je dis bien en Capissa, parce qu'il y a encore quelques journalistes qui vont à Kaboul où il ne se passe pas grand-chose par rapport à la Capissa, ou en Surobi, qui est une zone d'ailleurs qui est plus sous responsabilité française, mais désormais sous responsabilité afghane. Et c'est vrai que Patricia Lémonière a reçu des éclats de roquettes et elle en avait plein l'avant-bras. Donc voilà. Alors, Dieu merci, elle n'a été que blessée. Mais encore une fois, si Stéphane avait reçu une balle en pleine tête, ce qui ne pouvait pas m'arriver à moi, parce que moi j'étais dans le véhicule blindé et que de toute façon on pouvait pas sortir nos deux têtes et que je n'aurais pas été très utile à sa place. Et de toute façon, il y avait de la place que pour un caméraman plus un tireur. Et si on s'était pris une roquette en plein dans le véhicule blindé, on serait ressorti à moitié cuit, on aurait été aussi des héros nationaux. Mais là, on s'était fait enlever. Et le problème de s'être fait enlever, c'est qu'on était la preuve vivante, sans vouloir le démontrer. Hein, d'ailleurs, moi, ce n'était pas un but en soi de me faire enlever pour démontrer quoi que ce soit. Mais, en tout cas, enlevé sur la route principale de Capissa, entre deux bases françaises, en pleine journée, à 11h du matin, par un grand soleil, le 30 décembre 2009. Je dis le 30 parce qu'on dit souvent le 29, mais il y a eu souvent confusion. C'est la mère de Stéphane qui a toujours été persuadée qu'on avait été enlevé le 29, et il a fallu vraiment qu'on
le dise. Mais ça arrive avec le jour de la libération du 29 juin. Oui.
Voilà. Et en plus, il y a même eu des affiches à France Télévisions faites avec les deux dates, le 29 et le 30 décembre. Mais bon, ça c'est pour l'anecdote. Donc voilà, nous étions la preuve, Dieu merci, vivante, que cette zone n'était pas sécurisée. Mais moi, je n'ai pas voulu prouver dans ce livre que c'était la faute à l'armée ou à qui que ce soit. On est dans une démocratie, on donne un mandat à nos élus, en l'occurrence au président de la République. Les différents présidents de la République qui se sont succédés, Jacques Chirac d'abord, Nicolas Sarkozy ensuite, et François Hollande qui certes retire les troupes, mais enfin ont demandé à l'armée française et ont ordonné à l'armée française d'essayer de faire ce qu'ils pouvaient et en l'occurrence d'amener la paix en Afghanistan. Bon, mission impossible, mission ratée, mais on ne peut pas dire que c'est la faute de l'armée. Il y a eu 88 morts. 88 morts, c'est pas rien. Il y en a eu 2000 côté américain. Alors l'engagement américain, c'est 130 000 soldats au plus fort de la présence américaine. 430 soldats britanniques, quand même, aussi. Bon, à partir du moment où on confie à l'armée une mission impossible, voilà. Le fait, c'était pas de dire c'est la faute de l'armée, c'est la faute... Non, c'était juste constater. Et le dogme, à l'époque, au moment de notre enlèvement, le dogme politique... et militaire, parce que ça marche ensemble, c'était de dire, oui, c'est compliqué l'Afghanistan, oui, c'est compliqué la Capissa, mais on est sur la bonne voie, on est sur la bonne route, et on va arriver à nos fins, c'est-à-dire pacifier l'Afghanistan, ramener la paix dans ce pays, etc. Bon, force est de constater que 3 ans plus tard, parce que finalement, ça fait près de 3 ans qu'on est parti, c'est un fiasco total, qu'on part précipitamment. Normalement, on aurait dû partir. La date n'était pas encore définie à l'époque. Puis une date a été définie, ça devait être fin 2014. D'ailleurs, les Américains, les Britanniques et les Allemands s'y tiennent. Nicolas Sarkozy, voyant les soldats morts s'accumuler là-bas, a décidé fin 2013. Et François Hollande a décidé, il a été élu, fin 2012. En l'occurrence, ce ne sera pas tout à fait fin 2012 parce que c'est trop vite et qu'il faut aussi ramener du matériel. Dans le plus en sécurité possible, ça veut dire qu'il n'y ait pas de nouvelles victimes côté français. Donc c'est compliqué, il faut se retirer en bon ordre. Laurent Fabius dit on va même se retirer avant le 31 décembre, je ne vois pas comment, hein, mais bon, après, voilà. Donc c'était aussi pour comprendre ça, quoi.
Et alors pour en revenir donc à la polémique, hein, et puis on va clore le chapitre pour parler de la détention, mais donc la polémique, ce que vous dites, ce que vous expliquez bien dans le livre, c'est qu'au fond la source en fait de l'incompréhension, de la polémique, elle vient d'une source unique, et c'est bien ça le problème, notamment pour les journalistes, lorsque la source est unique, évidemment elle peut être sujette à caution. En l'occurrence, donc un officier de presse rédige un rapport sur vous en disant que vous avez votre voisinage pendant ce mois que vous avez passé ensemble ne s'est pas très bien passé et que vous avez pris avec votre camarade des initiatives successives malheureuses.
Il y a eu plusieurs
choses. L'État, ayant confiance dans l'armée et dans ses sources militaires, va embrayer, et donc jusqu'au plus haut niveau, et donc il va se répandre l'idée que,
en tout cas, il y a quand même des choses extraordinaires qui se passent au plus haut niveau de l'État français. Alors, je ne sais pas si c'est une spécialité française ou pas, mais enfin, moi, ça m'inquiète quand même. C'est d'abord, il y a une seule source, c'est-à-dire qu'au plus haut niveau de l'État, ministre de la Défense, président de la République, on se base sur une seule personne. Vous savez, c'est un peu comme s'il y avait eu un accident dans une entreprise. Pour vous faire un schéma assez simple, il y a une machine qui... Un ouvrier se blesse sur une machine, assez gravement. Le président directeur général, qui n'est pas dans l'atelier mais dans son bureau, dit « Mais il s'est passé quoi ? Alors, est-ce que la machine a dysfonctionné ? Est-ce que c'est l'ouvrier qui ne sait pas servir de la machine ? Est-ce qu'il a été mal formé ? Est-ce qu'il a eu un malaise ? Enfin, bon, tout ce qu'on peut se poser. » Donc, il y a un rapport qui fait. Il y a un rapport, le contremaître, le chef d'exploitation, l'ingénieur, et qui remonte jusqu'au directeur et qui remonte jusqu'au PDG. Et lui, après, se fait une idée. Mais c'est pareil, l'entreprise France, si j'ose dire, il y a un président de la République qui est chef suprême des armées, donc responsable des armées. Nous, on était censés être avec les militaires, ils ne savaient pas qu'on n'était pas avec les militaires à ce moment-là, dit « Mais que s'est-il passé ?» Et il y a une seule source. Mais d'abord, vous parlez de rapport, mais moi, au plus haut niveau de l'État, on m'a dit « Ah mais non, on n'a jamais vu de rapport. » C'est-à-dire qu'on écrit des rapports sur tout en France, y compris, passez-moi l'expression, mais la couleur du papier toilette à l'armée, mais il n'y aurait pas eu de rapport sur une affaire d'État, déjà. Pas de rapport écrit. Ils n'ont jamais vu de rapport écrit. Je ne veux pas le croire une seule seconde. Ensuite, une seule source, et surtout, comme ça a duré 2 ou 3 mois, cette polémique, pas de contre-enquête, et au plus haut niveau de l'État, encore une fois, Jean-David Lévite, qui était conseiller diplomatique de Nicolas Sarkozy, à l'époque on l'appelait même le ministre des Affaires étrangères bis, dit, vous savez, quand on a des informations, parce que lui aussi nie la présence d'un rapport, quand on a des informations de militaires, nous n'avons pas vocation ni à les vérifier, ni à savoir comment elles ont été engrangées, etc. Pour nous, c'est parole d'évangile. Je vous assure, c'est consigné là-dessus. Quand il m'a dit ça, je suis tombé un peu de l'armoire. Mais c'est comme ça. C'est comme ça que marche parfois l'État français, j'imagine d'autres États aussi. Donc c'est un peu grave parce qu'à partir du moment... Mais ils ont mis beaucoup de temps. Finalement, il a fallu que j'aille tous les voir les uns après les autres. Sarkozy, Kouchner, Jean-David Lévite, Juppé, mais Juppé, Morin. Lui, est arrivé à la fin. Morin, qui est très amnésique d'ailleurs, il oublie beaucoup de choses, bizarrement. Les présidents de France Télévisions, il y en a eu deux. Hein, il y a eu De Carolis, puis Filmin, etc. Mais surtout au niveau politique, ah oui, mais cette version, la version Guéquière-Taponnier, ah bon, on ne l'avait pas. Bizarrement, il n'avait qu'une seule version. Et Kouchner, qui n'a pas été le plus virulent, il faut bien le dire, mais qui ne nous a pas défendus non plus, il faut bien le dire aussi, m'a dit par deux fois, il m'a dit d'abord, oui, on s'est auto-intoxiqué, et ensuite il a dit, oui, nous avons été intoxiqués. Au moins, lui, il le reconnaît. Morin a tout oublié. Sarkozy ne répond pas à la question et botte en touche, mais je le vois trop tôt. Je le vois un mois après notre libération. Et en même temps, je savais que la campagne électorale arrivait à grands pas et qu'ensuite, j'aurais été plus reçu du tout. Claude Guéant ne dit rien et parle de ce rapport comme parole d'évangile, etc. Alors oui, effectivement, il y a des rapports, mais il y a aussi des rapports malhonnêtes. Il faut bien le reconnaître, il y a des rapports malhonnêtes. Donc voilà, moi, j'en suis là. Et surtout... cet officier de presse, parce que moi, je ne vise pas toute l'armée, je veux dire, il y a eu 88 morts, il y a 200 000 militaires en France, je ne vois pas pourquoi Dupont ressemblera à Durand. Non, il y a un lieutenant-colonel, Jacky Foucaureau, pour le nommer, qui écrit un rapport, ou en tout cas qui donne des informations qui sont fausses, et surtout, il a deux versions. Il dit, mais ils sont partis dans mon dos, ils ne m'ont jamais rien dit. Bon, première version. Puis il voit que ce n'est pas crédible, et il donne une deuxième version en disant « Je leur avais bien dit 1000 fois de ne pas y aller ». Il faut savoir, soit on est parti dans votre dos, soit vous nous l'avez dit 1000 fois. Mais il faut déjà accorder vos violons, quoi. Et plusieurs militaires me l'ont fait un peu comme ça aussi. Donc voilà, Donc, j'ai voulu comprendre ça et j'ai compris ça.
Alors, une question qui peut, qu'on peut se poser. Vous dites qu'en arrivant à Paris, donc en juin 2011, donc vous apprenez tout ça
par
vous,
la télé. D'ailleurs,
voilà, par la télé. Oui. Cela dit, donc vous racontez longuement dans votre livre que vous avez eu le temps d'écouter la radio, d'écouter.
Oui, mais on parle pas beaucoup.
Oui, alors, c'est-à-dire que vous n'avez pas entendu parler de votre cas. La radio, vous l'avez pas eu tout de suite.
Hein, on l'a eu un tout petit peu tout de suite, mais on arrivait à capter que la radio locale, qui est bien faite. C'est une radio.
Mais vous n'avez jamais entendu parler de cette affaire
pendant que
vous étiez en détention.
La polémique n'arrivait pas jusqu'en Afghanistan.
Même sur les ondes de Radio France Internationale.
Non, parce qu'on l'a eu plus tard, Radio France Internationale, et la BBC n'a qu'une seule ligne de conduite, c'est de ne pas parler des otages tant qu'on est otage. Donc voilà.
Donc vous n'avez rien su. Et Chine, et donc les radios.
Non. Sur la polémique, non. Après, sur les atermoiements, sur la négociation qui s'embourbe, etc. Oui, tout doucement. Et puis de plus en plus. Et même cette mobilisation extraordinaire qu'il y a eu dans toute la France. Mais vous savez, les politiques, s'ils ne sont pas trompés, ils se sont rendus compte d'abord qu'on n'était pas médiatisés au début. On était des otages, quand même, cas aussi unique, hein, sans nom et sans visage. Parce que l'État avait demandé
pendant à peu près 3 mois.
Hein. Ouais, c'est ça. 3 mois et demi, parce que on apparaît de manière d'ailleurs assez ubuesque dans le journal de France 3, dans le 19-20, face à 4 millions de téléspectateurs. Alors derrière le présentateur, on est en 4 sur 3, voilà, non flouté, en visage totalement clair. Mais dans le sujet, France Télévisions continue à nous flouter. Parce que d'un côté, il y avait la base de la rédaction qui voulait nous voir plein pot avec un nom, un prénom, des visages. Pourquoi on était allé là-bas ? Et d'un autre côté, la direction qui se pliait encore aux injonctions de l'Élysée et qui essayait de jouer à un jeu où on va les flouter sans les flouter. Enfin, ça devenait absolument ubuesque, quoi. Et puis ensuite, il y a eu un changement de président. De Carolis n'a pas eu de deuxième mandat. Et là, il lâche tout et nos têtes vous sont apparues. Excusez-nous, on vous a dérangé 2 fois par jour pendant un an. Donc voilà, quoi.
Alors, le livre que vous avez sorti donc, aurait pu être un livre écrit sur place parce que vous avez beaucoup écrit pendant votre détention. Malheureusement, c'est surtout une œuvre de mémoire parce que le journal de bord que vous avez écrit soigneusement, scrupuleusement pendant des jours et des jours, ça représente, je crois, de
500 feuillets.
500 feuillets,
c'est même plus gros que ça.
500 feuillets d'un mauvais papier sûrement, acheté au bazar de la ville voisine. Ces manuscrits vous ont été pris par les talibans quand
en
ils se
deux
sont
aperçus. Mais ils ont eu l'intelligence d'abord de me donner du papier et des stylos.
Alors on vous laissait écrire, mais on vous a pris le manuscrit.
C'est toute la subtilité des talibans. C'est-à-dire qu'ils ont bien compris très vite, au bout de 2 mois, que j'avais un besoin d'écrire. J'avais rien à lire, déjà. Bon, il y avait la radio, certes, mais enfin, qui est venue plus tard aussi. Donc, j'avais un vrai besoin d'écrire, donc du papier et des stylos, parce que quand on est enfermé dans une pièce et qu'on n'a rien, on ne peut pas l'inventer. J'ai rien à négocier, parce que j'ai rien à donner, moi, en contrepartie. J'ai juste à demander, à réclamer, voilà. Au fur et à mesure, ils me donnent toujours du papier, toujours des stylos, je ne tombe jamais en panne, et en 2 fois, ils me prennent tout ce que j'ai écrit, parce qu'ils m'ont dit à la fin, nous ne voulons pas qu'une seule information sorte de nos vallées interdites. Mais sauf que moi, à force d'écrire, évidemment, tout était... alors, pas au détail près, pas à l'anecdote près, de toute façon, c'était pas écrit pour être publié tel quel, c'était un journal de bord écrit au quotidien, mais en tout cas, ça m'a aussi aidé à mémoriser beaucoup de choses.
Et donc des passages entiers vous sont revenus en écrivant, ou en tout cas, toutes les ambiances.
Bah, vous savez...
Parce que vous êtes précis, hein, vous avez bossé, c'est jour par jour, c'est dur. Enfin, vous êtes...
Ouais, mais regardez,
vous donnez des dates, vous donnez des...
Moi,
vous donnez
j'étais très étonné, avant même d'écrire une seule ligne de ce livre, j'ai lu celui d'Ingrid Betancourt, 6 ans et demi de détention, parce que vous disiez en préambule, 547 jours, c'est long, c'est vrai. Mais 6 ans et demi, ça fait plus de 3000 jours. Ça, c'est quelque chose d'insensé. Mais quand vous voyez avec quel détail Ingrid Betancourt décrit des situations, alors qu'elle n'a pas écrit à l'époque sur place, c'est incroyable. À partir du moment où vous vivez des émotions extrêmement fortes, mais même dans la vie courante, je ne sais pas, moi, quand une femme donne naissance à un enfant, etc., je pense que c'est des choses qui restent dans la vie imprimées à jamais. Et moi, quand j'entendais parler mon père, qui n'avait pas écrit une ligne non plus, quand je l'entendais parler 50 ans après de scènes très précises, quand il était prisonnier de guerre, quand il a fait la guerre dans le nord de la France, etc., il s'en souvenait comme si c'était hier.
Alors la détention, vous la décrivez en détail, elle est assez différente de la détention qu'ont connue par exemple nos otages au Liban ou nos otages en Irak, qui avaient été détenus dans des coins sombres, dans des caves souvent, ou des appartements fermés. Vous avez été détenu dans des maisons souvent, des maisons reculées, mais dans des villages, et surtout vous vous êtes beaucoup beaucoup déplacé, parce qu'on vous transbahutait d'un endroit à un autre. Alors j'ai pas compté dans le livre le nombre de maisons que vous avez fréquentées.
C'était très irrégulier.
Mais on doit être à une bonne vingtaine, non?
Alors pour moi une quinzaine, Stéphane et Rézan ont un peu plus bougé, parce que moi j'étais 8 mois seul, donc eux c'est une vingtaine, mais c'est pas des maisons différentes parce que parfois on est revenu deux fois voire trois fois dans la même maison parce que les, en fait les
alors talibans, pourquoi ces changements continuent?
Alors deux choses, pourquoi ces changements continuent? Parce que les talibans avaient une seule trouille absolument, bon les talibans sont paranoïaques et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils doivent leur survie, c'est-à-dire quand on est, eux, ils se disent résistants, quand on est en tout cas en guérilla, et bien si on n'est pas paranoïaque on est mort. Donc déjà se méfier de tout, de tous, y compris d'ailleurs des Afghans en premier lieu. Donc ils nous déplaçaient
donc,
régulièrement.
Les habitants des villages dans lesquels vous étiez.
Et d'abord parce que les villages ne sont pas talibans d'un seul bloc. Il y a les pro-talibans, il y a les anti, il y a les rien du tout. Mais il y a aussi ceux qui peuvent aller parler à la police ou à l'armée, alors qui ne sont pas là sur place, mais qui sont en bas dans la vallée. Il faut faire 25 km, mais ce n'est pas ce qui fait peur à un Afghan. Hein. 25 km à pied, c'est de la rigolade. Donc voilà, ils ont peur des trahisons internes. Ils ont peur aussi de la machine de guerre occidentale. Des drones, c'est-à-dire des avions sans pilote qui filment et qui photographient sans arrêt. Des missions d'observation. Ils ont peur d'une opération militaire. Donc ils nous bougent régulièrement. Quand on est dans des zones pas sûres ou dans des maisons pas sûres, ils nous bougent toutes les semaines, toutes les deux semaines. Et quand on est dans des endroits très sûrs, on a pu rester, moi j'ai pu rester 4 mois et demi dans une maison et 5 mois et demi dans une autre. Et par ailleurs, bouger beaucoup à d'autres périodes. Mais leur peur, panique, c'était une opération militaire française. Et c'est pour ça qu'ils nous ont séparés un moment, parce que là, il fallait faire 3 opérations militaires simultanées et qui réussissent. En gros, c'était mission impossible.
Alors, ces maisons sont des bouges, hein, mais enfin, c'est pas toujours aussi affreux que ça. Il y en a qui sont franchement épouvantables. Il y en a d'autres qui sont où il y a une jolie vue. Parfois, d'autres qui sont moins désagréables que d'autres. On a toujours un peu. On a l'impression
le
que vous
problème,
avez toujours
c'est que froid, les mieux, mais... on n'y est pas resté longtemps, et que les pires, on y est resté longtemps.
Voilà. Alors évidemment, donc vous pouvez faire.
C'est comme quand vous partez en vacances. Hein, vous claquez une nuit dans un 4 étoiles et puis tout le reste, vous le faites dans un hôtel de routard, quoi.
Oui. Enfin, vous n'avez pas voulu faire le guide du routard de l'otage en Afghanistan.
Mais de temps en temps,
il y a un petit côté routard. Hein.
Mmh. Ouais, routard roots, ouais.
Routard avec dans des auberges mal tenues, avec une nourriture assez infâme, hein, ce que vous dites. Vous êtes arrivé à bien manger, mais c'était vraiment exceptionnel.
Hein. Ouais, 3-4 fois, on va dire. Bon, c'est pas leur spécialité non plus. Hein.
Alors le menu type, alors peut-être vous êtes intéressé à connaître
pour
le menu type.
Riz pour chien et haricots rouges. Voilà, le menu type, c'est riz pour chien et haricots rouges, mais rarement en même temps. C'est l'un ou l'autre. Non, il y a eu des endroits vraiment terribles où on n'aurait pas pu mettre un animal parce qu'il se serait tout simplement coincé les sabots. Je n'ai pas compris d'ailleurs à quoi servait cette pièce où je suis resté quand même 70 jours, où il y avait des blocs de pierre qui avaient été jetés là, pêle-mêle. Je n'ai pas vraiment compris à quoi servait cette pièce avant que j'y arrive, moi. Et ils avaient terrassé 4 mètres carrés, donc 2 sur 2, pour mettre une paillasse et puis pour poser mon petit sac. Donc j'avais 4 mètres carrés où je pouvais marcher. Et puis le reste, où c'était impossible de marcher, sauf à être en suspension comme ça, sur les blocs de pierre, qui étaient nids à souris d'ailleurs et à serpents, mais le serpent faisait pas bien son boulot parce que les souris étaient toujours là. Donc,
alors là, il y a tout un bestiaire, il y a les serpents, il y a les souris,
il y a les mouches. Alors j'ai échappé aux moustiques, c'est pas de moustiques bizarrement.
Mais pas de moustiques, oui. Mais les mouches, par contre, il y a un moment, vous arrivez au milieu d'un océan de mouches, vous passez plusieurs jours à les chasser.
Ouais, plusieurs semaines même, hein, finalement. Oui. C'est un passe-temps comme un autre, mais au début, il y avait, enfin pas l'hiver, mais l'été, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mouches, ce qui peut paraître comme ça anodin, mais quand il y a des centaines ou des milliers de mouches dans une pièce, ça devient très vite invivable, quoi. Voilà.
Alors il y a un autre détail un peu trivial, mais évidemment c'est la question des besoins naturels. C'est évidemment un problème qui se pose évidemment tous les jours et 3 fois par jour. Et donc là vous avez, en plus vous avez été malade, donc la nourriture était mauvaise. Alors là, régler ce problème là c'est toute une histoire, hein, ça finit parfois par devenir obsédant.
C'est une obsession. Et alors ce que j'ai appris sur la BBC en écoutant une émission, parce que j'étais très accroché à la BBC à partir du moment où on a eu des radios, c'était vers le 4e mois, que la moitié de l'humanité, c'est-à-dire 3 500 millions d'habitants, ne disposaient pas de toilettes, tout simplement. C'est pareil, effarant, mais c'est comme ça. La moitié de l'humanité, dont moi, à ce moment-là. Et donc, j'aurais préféré être dans l'autre moitié, pour le coup, mais bon, voilà. Et sauf que quand on est afghan, on peut sortir, ils sont dans la montagne, c'est un problème sans être un vrai problème. Ça commence à être un problème dans les villes qui ne sont pas toutes, qui ne disposent pas d'assainissement. Mais c'est vrai que l'assainissement en Europe, ça commence au milieu du 19e siècle. C'est pas si vieux, ça fait même pas 200 ans. Mais quand on est enfermé, ça pose un vrai problème. Et un jour, quand on commençait à être un peu plus à l'aise, on avait été déménagé pour la énième fois. Là, on arrive dans une pièce extrêmement froide, mais neuve, qui venait d'être bétonnée. Et ce qu'on ne savait pas, c'est qu'elle était au-dessus d'une étable. Et là, on dit non, une fois de plus, il n'y a pas de toilette. Là, il y en a marre. Et là, on est avec le traducteur qui traduit vite fait. Et les talibans ne se sont pas démontés. Ils sont allés chercher une grande pioche, un grand poignard. Je dis, qu'est-ce qu'ils vont nous faire ? Ils sont allés dans le coin et ils ont donné 10 coups de pioche. Ils ont creusé un trou. Il a égalisé avec le poignard. Il a dit, ben voilà, tu veux des chiottes ? Ben maintenant, t'en as. Et en dessous, c'était l'étable. Donc, comme quoi, parfois, ça peut être simple comme un coup de pioche. Et en l'occurrence, voilà. Mais ça ne tombe pas sous le sens, apparemment. Donc...
Alors vous étiez entre les mains de groupes talibans. Alors vous ne les ce qui est frappant, c'est que vous avez affaire à des petits commandants, à des groupes locaux.
Ouais.
Est-ce que à aucun moment vous ne mentionnez le fait que vous avez rencontré un grand chef taliban? Peut-être l'avez-vous rencontré?
Peut-être le dernier jour, mais c'est
toujours, ce sont toujours des groupes locaux qui se passent un peu le ballon et qui
voilà. C'est-à-dire non, le groupe local était uni. Ils avaient des problèmes avec leur chef qui, eux, les grands chefs, sont à Quetta, qui est une ville au Pakistan, à l'ouest du Pakistan, pas très loin de la frontière, dans ce qu'on appelle les zones tribales, c'est-à-dire des vrais fiefs talibans où personne ne va, ni les journalistes, ni les militaires. Et les Américains passent leur temps d'ailleurs à les bombarder à coups de drone, même pas à coups d'avion, comme ça ils n'ont pas de casse, parce que si le drone tombe, il n'y a pas de pilote dedans. Et c'est assez efficace, voire très efficace, et c'est piloté depuis une région près de Las Vegas. Donc vous imaginez à l'autre bout de la Terre, avec un petit joystick comme un jeu vidéo. Et effectivement, surtout à la fin, il y a des tiraillements entre la base qui veut absolument en finir avec cette histoire parce qu'eux ont en charge 3 otages et c'est compliqué d'avoir des otages en charge parce que c'est des prises de risque, il faut les nourrir même si on les nourrit mal, il faut les transbahuter, il faut les garder au chaud, au secret ou au froid, au frais, au secret, mais en tout cas pas se les faire prendre, qu'il n'y en ait pas un qui tombe très malade ou qui meurt ou qui tombe ou qui se casse la figure ou que sais-je. Et d'un autre côté, les chefs à Quetta qui sont beaucoup plus confortablement installés, qui eux surenchérissent parce qu'ils sentent qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Au début, ils voulaient 100 talibans prisonniers contre 3 otages et ils se rendent compte qu'ils vont en avoir que 2, ce qui n'est pas beaucoup. L'argent, pas énorme. Et leur revendication politique, qui était le départ des Français d'Afghanistan, ça a été niet tout de suite.
Puisque au fond, vous avez pu savoir finalement quel a été le prix de votre libération.
Pas sur le fait, après, en recoupant.
En tout cas, en termes humains, ça a été 2 talibans. Deux talibans.
Ça, c'est sûr.
Qui étaient dans des prisons afghanes, qui étaient détenus dans des prisons afghanes.
Parce qu'il y avait des prisonniers talibans, souvent des gros bonnets, qui étaient soit dans les prisons américaines, entre autres sur la base américaine de Bagram, qu'on appelle le Guantanamo afghan.
Et que les Américains ne voulaient pas lâcher.
Pas un. Rien. Déjà, les Américains avaient 2 prisonniers de guerre, ou 2 otages, enfin, comme c'était des soldats, 2 prisonniers de guerre. Ils ne négociaient rien avec les talibans, en tout cas, pas en public. Ils ne négociaient rien, ils ne voulaient rien lâcher pour leurs 2 soldats. Vous imaginez bien que pour 2 Français et un traducteur afghan, encore moins. Donc après, les Français se sont tournés vers le président afghan, Hamid Karzai. Ça a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et ça m'a été confirmé au plus haut niveau, c'est-à-dire d'abord par Bernard Kouchner, qui a commencé le travail, et par Alain Juppé, qui est allé conclure le travail. Ça a été 2 talibans. Est venu là-dessus un 3e taliban qui a été blessé par les Français. Pas de chance, c'était un des meilleurs copains du chef local. Ça a repris 5 mois pour un 3e, 5 mois pour un mec. Finalement, ils ne l'ont pas obtenu. Et finalement, on a été libérés.
Avec une rançon, évidemment.
Rançon, selon les talibans, 4 millions d'euros. Selon de sources françaises très très proches de l'enquête, moins d'1 million d'euros. Je ne saurais jamais. Peut-être que les talibans exagèrent pour sauver la face. Peut-être que les Français ont sous-estimé pour eux aussi sauver la face. La vérité était entre les deux. La somme exacte, on ne le saura jamais parce qu'officiellement, et encore une fois, c'est Alain Juppé, le local de l'étape, qui a dit publiquement, et le président de la République aussi, enfin l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy, et c'est normal, ils disent il n'y a pas de rançon, c'est un secret de polichinelle, ils ne veulent pas que ça crée soi-disant des vocations. Bon, ils disent ça.
Alors vous parlez beaucoup des talibans, évidemment, donc ceux que vous avez vus, hein, ceux qui vous ont détenu, ceux avec qui vous avez échangé. Alors soit dans les quelques mots de Dari que vous avez réussi à apprendre
la langue locale. Surtout soit beaucoup avec le traducteur.
Soit avec votre traducteur, mais enfin vous avez été sans votre traducteur pendant 8 mois, donc ouais. Il a fallu apprendre un peu le Dari. Hein. Je ne sais pas si vous en reste quelque chose, mais enfin en tout cas vous avez...
À part Mozakrat qui veut dire négociation.
Alors il y a négociation embourbée et négociation qui avance. Hein.
Mozakrat Chorou, les négociations avancent, et Mozakrat Khalas, qui est un mot arabe d'ailleurs.
Oui, bien,
les négociations
sapatine, c'est bloqué.
Fini, échoué, voilà, ça me bloquait en tout cas.
Alors vous décrivez beaucoup ces personnages que vous avez en face de vous, dont certains vous détestent et que vous détestez. Il y en a un en particulier.
Drana, oui.
Mais les autres, bon, vous avez parfois, notamment, il y a un jeune taliban plutôt sympa avec vous, qui va même au village vous chercher qui va cantiner pour vous.
C'est pas un taliban. Il y a un peu trois types. Il y a les talibans purs et durs, les combattants, dont certains nous ont gardés. En tout cas, il y avait un groupe de 7-8 qu'on a toujours retrouvé tout le long de notre détention. Après, il y a les sympathisants, ceux qui se battent un peu à mi-temps, qui donnent un coup de main, qui font le coup de feu. Et puis, il y a les malgré eux, c'est-à-dire des gars qui ne sont pas combattants, qui ne sont même pas talibans, mais qui ont une dette ou qui ont peur ou qui vivent sous pression. Et parce que les talibans essayent de faire la loi et mettent la pression aussi sur certaines familles, pas toutes, mais en tout cas quelques-unes, ouais.
Et alors donc vous parlez de ceux que vous avez rencontrés, puis vous parlez aussi de façon un petit peu plus générale des talibans. On cherche un peu dans les pages ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire qu'à un moment donné vous seriez, à force de les fréquenter, vous finiriez par avoir trouver quelques excuses à leur attitude, avoir peut-être un peu plus indulgent sur leur motivation, etc. Alors là vous êtes très clair, vous dites non, je n'ai pas du tout d'indulgence pour eux. Simplement vous avez juste une certaine admiration pour la façon dont ils font la guerre quand même, dans
Fastlane, donc ils réussissent à
résister. Mmh. Hein.
Mais j'ai essayé de les comprendre, mais dans le sens pas comprendre leur combat et reconnaître et dire c'est très bien ce qu'ils font. Non, essayer de comprendre au sens premier du terme, c'est-à-dire comment se battent-ils, pourquoi se battent-ils, avec quelle force, avec quelle arme. Et je me rends compte, comme tous ceux qui les ont côtoyés de près ou de loin, y compris d'ailleurs nos soldats qui se font tirer dessus, qui sont harcelés, mais c'est l'armement de base, c'est Kalachnikov des années 60, et les meilleurs sont les Kalachnikov russes, soviétiques, ils n'aiment pas les imitations chinoises, des vieux lance-roquettes qui datent à peu près de la même période, c'est-à-dire la période soviétique, souvent d'ailleurs piquées, volées, soit sur des cadavres à l'époque, ou en tout cas dans des stocks d'armes, etc. Et puis la hantise des soldats de l'OTAN, ce qu'on appelle les IED, qui est un terme anglais, qui veut dire en gros les engins improvisés, donc des bombes artisanales, que les talibans mettent, et c'est pour ça, d'où l'intérêt d'ailleurs de macadamiser les routes, parce qu'on ne peut pas planquer ces petits engins explosifs qui sont fabriqués artisanalement, mais qui peuvent être très meurtriers, on ne peut pas les planquer sur une route bitumée. Soit on les met sur le côté, ça a moins d'impact, et le mieux c'est de les mettre sur la route pour que ça fasse sauter les blindés, et c'est plus simple de les mettre sur une piste, parce que dans ces cas-là, ils creusent, ils mettent l'engin, ils recouvrent, ni vu ni connu, et quand ça passe, soit c'est une mine classique, c'est-à-dire avec la pression, le poids du véhicule, ça saute, ou alors le poids d'un soldat s'il marche dessus, si c'est anti-personnel ou anti-véhicule, ou alors à distance, mais maintenant à distance, c'est vrai que les forces de l'OTAN ont des brouilleurs, à distance c'était souvent par téléphone portable, et maintenant ils ont des brouilleurs pour plus que les portables passent, donc c'est très simple, mais très meurtrier. Et puis, il y a les opérations suicides, les opérations kamikazes, avec des véhicules, soit des camions, des camionnettes ou des voitures chargées d'explosifs. Ça peut être 500 kilos, 1000 kilos, selon, voire plus. Hein. Comme on voit en Syrie aussi, hein. En ce moment, c'est exactement... Et c'est la guerre du faible au fort. C'est-à-dire que les talibans sont, selon les spécialistes, 20 000 combattants à plein temps. Ils tiennent tête au plus fort de la présence de l'OTAN, 140 000 hommes surarmés, sans compter l'armée afghane, même si elle n'est pas très entraînée, pas très efficace, qui augmente au fur et à mesure. À l'époque, c'était 200 000 hommes, l'armée et la police. Aujourd'hui, c'est plutôt 300 000 hommes. Eh bien, ce n'est pas une guerre de front, ce n'est pas une guerre de position, parce que là, évidemment, ils seraient battus en 2-3 jours. C'est une guérilla, c'est un harcèlement. J'attaque, je me retire, j'attaque, je me retire. Et comme ils sont chez eux, et comme ils se retirent chez eux, et comme ils sont habillés comme des civils, et comme ils rentrent dans leur famille, ils sont insaisissables. Et ce que disent la plupart des combattants, qu'ils soient américains ou français, on se fait tirer dessus par l'homme invisible. Et on riposte sur l'homme invisible. On ne sait jamais d'où ça vient. Oui, ouais, ça vient du coin là-bas. Mais qui ? On les voit à peine. Des ombres, c'est tout. Et le gars dépose sa calage dans un trou, reprend sa brouette. C'est comme ça que ça se passe. Sa brouette, je l'ai vue à côté du soldat français. Et il me dit, regarde, lui, il a une calage. Tu vois, dans 10 minutes, il va avoir une brouette.
Alors vous n'avez pas forcément assisté à des embuscades, à des combats. Par contre,
on a même été dedans deux fois.
Oui, deux fois. Lorsque vous étiez avant votre détention.
Mais ensuite. Quand j'ai dit que Taponnier a failli s'en prendre une en pleine tête, c'est parce qu'il a vraiment failli s'en prendre une en pleine tête et ça a duré 5 minutes. Et c'est long, 5 minutes quand ça tire. Hein.
Mais alors, il y a une des raisons pour laquelle vous dites ils vont gagner la guerre, c'est quand vous marchez avec eux. Parce que là c'est quelque chose qui vous a beaucoup. Vous y revenez très souvent. Ils vous emmènent faire des marches en montagne pour vous emmener dans des maisons. Là, vous êtes obligé de les suivre. Et alors, vous les voyez marcher, c'est écœurant. Ils se baladent. Ils n'ont pas de.
Moi, j'avais de très bonnes chaussures de montagne montantes parce que je suis un peu fragile. Dieu merci, elles ont bien résisté, mes chevilles aussi. Eux, ils ont des baskets à semelle lisse qui valent entre 5 et 10 dollars au marché, mais plutôt 5. Ils gambadent comme des lapins. Moi, je vous dis, vous passez une nuit à marcher avec des talibans dans le noir absolu, vous comprendrez pourquoi vous ne gagnerez jamais la guerre. Et en plus, et ça, aujourd'hui, dans nos guerres modernes, on est de plus en plus lourds. Et les Américains sont plus lourds que les Français. C'est-à-dire qu'on est suréquipés, surarmés, etc. Des fusils très lourds, bon, des gilets pare-balles, évidemment, etc. Mais tout ça fait que quand ils doivent monter sur des pitons rochers, etc., ça ne peut se faire que héliporté. En tout cas, une partie du matériel est héliporté. Donc, dès qu'il y a un hélico dans une vallée, ça s'entend, ça devient une cible. Et de toute façon, les soldats, même quand ils marchent, ils sont très lourds. Le taliban, lui, il n'est pas embêté. Alors, il n'est pas protégé non plus. Mais il n'est pas embêté. Il a sa Kalachnikov à l'épaule qui pèse moins de 10 kilos, 7-8 kilos. L'Américain, il doit avoir, je ne suis pas un spécialiste, mais il doit avoir 40 ou 50 kilos de matériel sur le dos. Les Français, un tout petit peu moins, mais on est de plus en plus lourd, car de plus en plus sophistiqué, mais aussi de plus en plus lourd. Donc de moins en moins mobile. Donc à partir de là, c'est les militaires qui nous l'expliquent, ça c'est pas un secret. Alors on a le côté technologique, mais on n'a plus le côté mobilité. Et c'est tout le problème, ne serait-ce que du gilet pare-balles quand on est journaliste. Un gilet pare-balles qui protège vraiment très fort, oui, il vous protège, mais vous êtes quand même dans un scaphandre, vous ne pouvez plus bouger. Alors on les fait plus courts ou un peu plus longs, alors on se cherche. Bon, il n'y a pas de protection idéale de toute façon. Mais de toute façon, ce sont des gens qui marchent longtemps, qui ne boivent quasiment pas d'eau quand ils marchent, peuvent, pendant toute une nuit, ils trouvent une source, ils parlent. Donc voilà, ils sont nés là-dedans, ils sont dans leur élément, ils sont chez eux. Nous, on n'est pas chez nous.
Alors, 547 jours, c'est évidemment très long. Vous êtes passé par des phases d'espoir.
Dites pas ça à Ingrid Betancourt.
Non, je ne dirais pas ça à Ingrid Betancourt. Mais néanmoins ça, donc un an et demi, vous êtes passé par des phases d'espoir, des phases de désespoir. Qu'est-ce qu'il a emporté ? Est-ce que vous avez cru à certains moments que vous ne vous en sortiriez jamais ?
Non, ça non. Ça jamais. Parce qu'à part une ou deux frayeurs au tout début où c'était extrêmement tendu, où ça pouvait partir sur un dérapage, d'autant qu'on a quand même été au tout début kidnappé par de très jeunes combattants, enfin qui avaient 18-20 ans, pas des enfants soldats, il n'y en a pas, enfin j'en ai pas vu, et je pense qu'il n'y en a pas. Il y a des enfants kamikazes, des adolescents, en l'occurrence, qui ont 14, 15, 16 ans, voilà, qui sont envoyés sur des kamikazes, c'est-à-dire avec des camions pleins d'explosifs, etc. Mais des combattants en tant que tels, je n'en ai, en tout cas moi, je n'en ai pas vu. Mais les gamins ont, oui, 18, 19, 20 ans, ce sont de jeunes adultes. Donc un dérapage, c'était quand même très 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 tendu, très nerveux, mais à part ça, non. En revanche, on peut rentrer dans des zones de dépression et de désespoir assez aiguë, dans le sens où c'est Stéphane Taponnier a la bonne formule. Il dit, un détenu, même si sa peine peut être très longue, hein, 18, 15 ans, 20 ans, bon, c'est très long, c'est vrai, mais il décompte sa peine. Un otage compte sa peine, parce qu'on ne sait pas si ça va finir demain, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans. Alors c'est un facteur d'espoir d'un côté, parce qu'on se dit demain ça peut être fini, et paradoxalement c'est aussi un facteur de désespoir, quand on plonge un peu, ça dépend les moments, où on se dit mais quand ça va finir ?
Mais il y a des moments où vous faites comme le prisonnier, c'est-à-dire vous faites un schéma, vous dites ma libération devrait intervenir à tel moment parce que vous avez fait une déduction, et puis alors là vous vous mettez à décompter les jours jusqu'au moment supposé d'une possible libération.
C'est un peu délirant à ce moment-là.
Je
passe ma vie à ça, à faire des projections, alors j'ai déjà passé autant de temps, donc si je repasse encore autant de temps et 3 fois plus de temps, et ça m'amène où ? Et comme j'ai jamais perdu le fil du temps, ni moi, ni Reza, ni Stéphane d'ailleurs, on savait au jour près, à la date près, voire à l'heure près, où on en était. Surtout au début, après j'ai un peu abandonné, encore que pas toujours, mais au début j'ai beaucoup projeté. Puis vous savez, à un moment on ne parle plus beaucoup parce qu'on s'est tout dit, on est un peu chacun dans notre bulle de silence et on a le temps de psychoter, comme on dit.
Alors précisément, peut-être un mot sur les relations entre vous et Stéphane Taponnier pendant la détention. Alors, vous avez été séparés pendant plusieurs mois.
Moi, Stéphane et Reza.
Et Reza, parce que oui, et alors vous avez été séparés pendant plusieurs mois, mais pendant les mois où vous avez été ensemble, au début et à la fin, ça ne s'est pas toujours très bien passé parce que...
D'abord, j'ai la franchise de le raconter. Ensuite, vous savez, 3 disputes en 1 an et demi. Enfin, si on enlève les 8 mois, en 10 mois, mais c'est rien. Mm-hmm. C'est absolument rien. Il y a une seule dispute qui a engendré un silence de 5 jours entre Stéphane et moi. Tout le reste, les deux autres, ça a été 3 heures. Voilà. Non, c'est rien. Mais c'est vrai qu'il se crée des tensions. Il se crée des tensions parce qu'on a chacun sa manière de réagir. Et on est même incapable de savoir avant que ça arrive comment on va réagir. Stéphane avait sa manière, souvent, de s'isoler dans sa bulle de silence.
C'est ça que vous supportez pas très bien, parfois.
Et Reza non plus, d'ailleurs. Il avait d'ailleurs un peu plus de mal que moi avec ça. Je lui ai même dit à plusieurs reprises, Stéphane, arrête de faire l'autiste, quoi. Mais bon, c'était sa manière de se protéger. Et maintenant, avec du recul, je le comprends totalement. Moi, j'avais une autre manière. Reza en avait encore une autre. Vous en auriez encore une autre. Chacun de nous en aurait une autre. On est en résistance. On fait ce qu'on peut.
Vous passiez pour le type revendicatif,
celui qui réclamait tout le temps.
Qui réclame, hein. Vous réclamez des surplus.
Moi, j'étais le délégué syndical.
Vous dites j'ai froid, j'ai faim.
Ce qui n'est pas ma vocation dans la vie, car je ne suis pas syndiqué à France Télévisions. Non, je ne suis pas le seul, mais il n'y en a pas beaucoup.
Alors précisément, ça m'amène peut-être à la dernière question que moi je vais poser avant de vous laisser la parole, mais ce côté revendicatif, évidemment, ça vous désigne tout à fait à votre retour de captivité pour vous impliquer dans ce que vous avez fait, vous impliquer donc dans la cause, pour la cause des otages qui restent, puisque malheureusement plusieurs...
Je ne sais pas si c'est une cause, mais c'est vrai que quand on m'appelle, j'essaye de rendre service, j'essaye de prodiguer 2-3 conseils si c'est possible de le faire. C'est pas évident, c'est franchement pas évident. Je fais ce que je peux à ma petite échelle et très modestement.
Vous avez été consulté notamment sur la question de savoir ce qu'il faut faire aujourd'hui par rapport à la détention de nos otages au Mali en particulier.
Là, j'étais très clair avec les familles et les proches d'otages, les comités de soutien divers et variés, c'est-à-dire que si on parle des 6 d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, il y a un groupe, ça fait plus de 2 ans. Ça, c'est le groupe qu'on va appeler Areva Vinci.
Donc, enlevé le 16 septembre 2010,
voilà,
donc à Arlit.
Il y a l'autre groupe, messieurs Verdon et Lazarevitch, eux, ça va faire presque 1 an. Là, on n'en est plus à savoir s'il va y avoir un retournement de situation brutal, etc. Là, on est dans un embourbement, on est dans un système un peu long, on est dans une situation au Nord-Mali qui est extrêmement complexe, très volatile, dont on ne sait certainement d'ailleurs nous pas grand-chose, ni même les familles. D'ailleurs, je ne pense pas que ça doit être médiatisé, ni les négociations, ni tout ça. Mais vous savez, ce n'est pas moi qui le dis, encore une fois, c'est Alain Juppé qui m'a dit, à mon grand étonnement d'ailleurs, le 30 mai dernier, lorsque je l'ai interviewé pour le livre, qui m'a dit, vous savez, la médiatisation et la négociation, ça peut marcher en même temps. C'est-à-dire que la médiatisation ne nuit pas en espèce à la négociation, et même, ça aiguillonne les politiques. Et il a rajouté, vous savez, la DGSE, les services secrets, eux, ils continueront à faire leur travail. Médiatisation ou pas, eux, ils ne sont pas payés pour se médiatiser. D'ailleurs, on ne les verra jamais. Eux, c'est le dur. Eux, ils négocient. Et parfois, il faut qu'il y ait des déblocages politiques. Moi, j'explique avec Kouchner, avec Juppé. Kouchner, en novembre, il y a 2 ans. Juppé, quelques mois après, pour resserrer les boulons avec le président Karzaï. Nicolas Sarkozy aussi à plusieurs reprises au téléphone avec le président Karzaï. Donc voilà. Et c'est Alain Juppé qui me l'a dit, cette pression médiatique aiguillonne les politiques, qu'on le veuille ou pas, même de manière quelque part inconsciente. Et en tout cas, ça ne nuit pas en l'espèce, si ce n'est pas manié de manière, si ce n'est pas fait de n'importe comment, mais je ne pense pas que ça soit fait n'importe comment avec les familles concernées par Al-Qaïda au Maghreb islamique aujourd'hui, ni par nos soutiens, familles et proches à notre époque. Donc voilà, à partir du moment où c'est fait avec des gens responsables, qui font les choses bien, avec des médias qui respectent aussi certaines limites, parce que tout le truc, c'est ne pas nuire à la sécurité des otages. C'est ça, le truc.
Donc, ce que vous dites, c'est que dans un premier temps, quand la situation peut se débloquer, il vaut mieux
garder... Dans les 2-3 premiers mois,
il vaut mieux rester discret.
Voilà. Après, on attend, on voit. Après, on est dans une phase où on s'embourbe. C'est clair.
Et là, on peut parler des otages. On peut montrer leur visage,
mais
on peut
parler de leur détention. Je crois que de toute façon, maintenant, c'est fait. Là, parlons concrètement. Il y en a 8 en tout, mais il y a un cas très particulier, c'est l'agent de la DGSE en Somalie. Alors, pour lui, c'est compliqué parce qu'il a vocation à être discret, voire secret, etc. Bon, voilà. Il y a un franco-mexicain au Mexique, c'est un autre problème encore pris en otage par un cartel des drogues. Et ceux qui nous occupent médiatiquement beaucoup en ce moment, ou en tout cas relativement, ce sont les 6 aux mains d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Oui, il faut en parler. Bien sûr qu'il faut en parler. Et moi, je suis très étonné du silence absolument total d'Areva et Vinci ou de leurs filiales qui sont les employeurs pour le groupe des 4. Et je suis quand même relativement étonné par la discrétion des politiques et des plus hauts dirigeants de l'État. Il n'est pas question de révéler quoi que ce soit sur les négociations, etc. Mais parfois, juste un mot de la part du président Hollande ou du Premier ministre, parfois ça fait du bien aux familles, mais ça fait du bien aux otages, parce que moi je suis persuadé qu'ils ont une radio, je suis persuadé qu'en Afrique on reçoit bien Radio France Internationale. Et nous, avec Stéphane, quand on a appris qu'il y avait une médiatisation, on ne se doutait pas qu'il y avait une médiatisation à un tel point, mais même déjà ce qu'on percevait là-bas, mais ça nous a fait tenir comme c'est pas possible, évidemment. Évidemment. Donc dans la petite mesure de ce que je peux faire, oui, j'essaye d'apporter ma pierre. Voilà.
Petite question subsidiaire, est-ce que vous saurez un jour quelle est la personne qui vous a téléphoné, que vous avez eu deux fois au téléphone?
Non, jamais, jamais.
C'est pas la même. Qui vous a dit on s'occupe de vous?
C'est pas la même.
Ben non, puisque les talibans vous ont passé un téléphone.
C'est deux agents de la DGSE. Vous savez, le bureau permanent de la DGSE, avant qu'on soit enlevé, c'était 3 personnes à Kaboul. Dès qu'on a été enlevé, c'était 10 personnes. Donc ça veut dire que malgré cette polémique, et ça je le dis haut et fort parce que c'est vrai, malgré cette polémique du début, etc. Et c'est toute la complexité d'un personnage comme Nicolas Sarkozy, c'est qu'il y a eu en même temps une mobilisation, à fond, ça c'est sûr. Et dès le premier mois, au bout d'un mois de captivité, j'avais au bout du fil un agent de la DGSE, ça voulait dire qu'il y avait déjà une négociation pour que nous puissions l'appeler avec un téléphone des talibans, etc. Donc non, je ne saurais jamais, d'ailleurs ça fait partie du jeu, c'était a priori 2 agents basés à Kaboul à l'ambassade. Alors qui sont au plus près de la négociation, qui sont les négociateurs.
Il est 7h15, on va terminer cette rencontre. Donc je vous remercie beaucoup d'y avoir assisté. Donc je vous rappelle que le livre d'Hervé Guéquière s'appelle 547 jours, il est édité chez Albin Michel. Voilà, et on le remercie d'être venu.
Merci à vous.